Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Qui a dit « Chanter, c'est prier deux fois ». En ce printemps, les oiseaux donnent de la voix pour notre plus grand bonheur et nous chantent l'amour que Dieu nous porte, disent certains saints. Afin de leur répondre mieux, tout comme à Dieu, nombre de croyants ne font pas que parler quand ils prient, mais ils chantent aussi, avec cependant plus ou moins de bonheur, n'est-ce pas ? Alors, parce qu'entre pousser la chansonnette sous sa douche, siffler comme un oiseau dans son jardin et chanter rien moins que la gloire de Dieu, il y a plus qu'un pas, je vous invite, Derechef, à la toute prochaine session, musique et liturgie. Coup de zoom sur la session musique et liturgie, c'est donc en ce mardi où on met traditionnellement des coups de focus sur les réalités de la vie chrétienne de notre grande région Occitanie. C'est donc, on va dire, le nominé du jour, cette prochaine session dont on va parler, qui aura lieu, donc ce stage, pardon, de musique et liturgie, bravo. C'est celle la petite voix qu'on a entendue, c'est donc vous, Anne-Marie Pouillon, vous êtes déléguée provinciale au service de la musique liturgique, bonjour.
Bonjour.
Parlez bien près du micro. Est avec nous aussi Gaël Recoul. Vous êtes prêtre du diocèse d'Albi. Vous êtes avec nous en duplex depuis les studios de RCF à Albi. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Est avec nous Audrey Carpin qui est choriste. Bonjour.
Bonjour.
Et nous rejoindra un petit peu plus tard Monique Ducomte qui est chantre et chef de chœur. Alors, c'est donc un stage, c'est pas une session, stage de musique liturgique qui aura lieu donc à Toulouse, c'est du 19 juillet au 25 juillet prochain. C'est en fait une institution, c'est vrai que je l'ai découvert, mea culpa maxima culpa, peut-être à la faveur de cette émission. On va y revenir sur cette institution. Allez, honneur à vous Anne-Marie Pouillon, même si vous n'aviez pas prévu d'ouvrir le bal. Vous dites, c'est une institution un peu dans le sud-ouest, ce stage, ça fait combien de temps maintenant que ça existe ?
Ça fait plus de 56 ans, puisque le stage est né à la suite de Vatican II, à l'initiative des moines d'Ancalcate au départ et des prêtres qui étaient autour de développer la musique liturgique pour vivre Vatican II autrement. Alors le mieux possible.
On va y revenir justement, parce qu'il faut remonter peut-être presque aussi loin que ça. Avant ça, j'ai tapé, comme souvent pour ces émissions, dans un moteur de recherche, musique, liturgie. Et puis je suis tombé sur un article qui parle du pape François. C'était à l'occasion donc de l'audience générale du 3 février dernier. L'article est intitulé de la manière suivante, « Un christianisme sans liturgie est un christianisme sans le Christ ». Qu'est-ce que ça vous inspire, Gaël Recoul, cette phrase un peu choc dont le pape François a le secret ?
Et oui, on reconnaît bien là son style un peu direct et très fort, et en même temps, je crois, très vrai. Depuis, en fait, j'allais dire même les racines juives de la liturgie chrétienne, le chant, la beauté, en fait, le beau dit Dieu. Et il y a vraiment cet aspect-là dans notre tradition religieuse, et même, je pense, au-delà de la tradition chrétienne et même judéo-chrétienne, toutes les traditions religieuses insistent sur, finalement, le beau qui nous dit quelque chose de Dieu, à travers lequel Dieu nous dit quelque chose et par lequel nous pouvons interagir avec lui. Donc je crois vraiment que effectivement, et en particulier pour ce qui nous concerne ce matin, la musique liturgique, le chant liturgique, viennent nous donner de vivre une communion toute particulière finalement avec notre Dieu.
Alors, à ce sujet, le pape François en a profité aussi pour, on va dire, placer quelques remarques. Le pape François expliquait qu'il ne fallait pas écouter la messe, car le chrétien n'est pas spectateur. Les fidèles avec le prêtre célèbrent la messe dont le Christ est le protagoniste. Et puis, à propos de la liturgie est une prière en communauté, car à chaque fois, le Christ est vraiment présent. Dans la liturgie, tu pries avec le Christ à tes côtés, a-t-il à nouveau reprécisé, pour ceux qui, par hasard, en douteraient. Vous vouliez remonter donc au Concile Vatican II, et donc à une constitution liturgique, si j'ai bien compris, ou à une constitution de ce concile, Sacrosanctum Concilium. Pourquoi vous l'y remontez aussi loin, Gaël Recoules ?
En fait, c'est un des documents fondateurs de la réforme de l'Église des années 1960, hein, de l'année 1962-65. C'est en plus c'est le dernier quand même, mais c'est un des quatre documents tout à fait fondamentaux du Concile Vatican II. La constitution dogmatique, hein, dogmatique, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose au niveau de la vérité de la foi qui est transmise dans ce document-là par l'Église. Donc cette construction dogmatique sur la liturgie est un point d'orgue, un point d'aboutissement de tout un mouvement qui a parcouru tout le XXe siècle, mouvement liturgique, qui a permis de réfléchir un petit peu à... qui s'est interrogé sur la manière de célébrer, et de célébrer l'Eucharistie, de célébrer la liturgie dans l'Église, et dans ce lien finalement entre le peuple de Dieu et le clergé, pour schématiser un petit peu. On s'est rendu compte que il y avait une forme un peu de distance, presque de, en tout cas de désynchronisation dans la liturgie. On s'est dit, mais comment raccrocher les wagons finalement? Comment permettre au peuple de Dieu, pour qui la liturgie, à qui la liturgie est destinée? Une liturgie, en grec, ça veut dire l'action du peuple. Alors donc c'est bien le peuple qui est au centre.
J'ai trouvé un extrait donc, de cette constitution. La liturgie est la prière de l'Église. Cette Église n'est pas une hiérarchie seulement, elle comprend d'abord un peuple. Le peuple de Dieu est un peuple saint, un sacerdoce royal. Il a droit à la participation active dans la liturgie sacrée. À l'occasion aussi de la préparation de cette émission, j'ai trouvé un courrier d'un prêtre qui avait connu, on va dire... le temps avant le Concile Vatican II. Alors, il raconte un petit peu comment était la messe autrefois. C'est vrai que ça fait bizarre. En fait, il laissait entendre qu'au fait, tout au fond de l'église, il y avait 4 ou 5 personnes qui disaient gentiment leur chapelet, dit-il. Moi, j'étais à l'autel, je priais en silence. Finalement, ça se passait entre la chorale, le prêtre et le prêtre qui était à l'autel. On a du mal, en fait, à imaginer ça.
Oui, c'est ça. Alors effectivement, moi, c'est une période que je n'ai pas connue. Monique, qui est avec moi dans le studio, qui a connu cette période-là, me fait signe que oui, en effet, c'était bien cette réalité-là. Mais précisément, je crois que le Concile Vatican II a donné, et puis tout le mouvement liturgique, la place centrale, finalement, de se dire c'est le peuple de Dieu qui est au centre. Et tous les acteurs liturgiques, mais y compris, finalement, les ministres ordonnés, on est ordonné à quoi? On est ordonné au peuple de Dieu. Et dans la liturgie en particulier, on est ordonné au service l'exercice de la fonction sacerdotale du peuple de Dieu, c'est-à-dire donner aux baptisés d'exercer leur mission de prier et de célébrer Dieu. Et tous les acteurs liturgiques, en particulier donc ceux qui sont attachés à la musique, les musiciens, les chanteurs, etc., sont de véritables ministres, portent un ministère, c'est-à-dire un service au service de la participation du peuple de Dieu à la liturgie, à l'action liturgique.
Alors Anne-Marie Pouillon nous a réservé quelques extraits pour nous laisser entendre ce à quoi ça peut ressembler, soit ce qu'on peut vivre à l'occasion de ce stage, soit à quoi pourrait ressembler ou devrait ressembler peut-être la musique liturgique. C'est un premier extrait qu'on va écouter. Anne-Marie Pouillon, vous nous direz ce que c'est juste après. Anne-Marie Pouillon, quel est cet extrait que vous avez proposé et pourquoi cet exemple?
Tout simplement parce que c'est au cours du stage aussi, il y a des gens qui se sont formés, des gens qui sont devenus qui composent aussi. Et c'est le cas de ce chant à la Vierge qui va être travaillé cette année dans le livret du stagiaire. Il s'agit d'un texte de Frère Maurice, mais d'une composition du Père Gaël Rocoul.
Ah voilà, mais dites donc, vous vous renvoyez l'ascenseur entre vous là, ça frise la flatterie. Alors Gaël Rocoul, peut-être à quoi ça ressemble en fait une belle musique liturgique? Je disais en fait avec un petit sourire dans la voix, mais qui ne se reconnaît pas dedans? Tout le monde n'est pas, on va dire, un chanteur exemplaire, mais c'est vrai que quand on est pratiquant, on rêve toujours d'une liturgie justement splendide. Le pape François d'ailleurs a une expression dans un texte que je vous ai envoyé à ce sujet. Il dit une liturgie qui nous parle de ce nuage lumineux qu'est la vie chrétienne. Ça serait quoi en fait une belle musique liturgique, Gaël Rocoul?
Ah, Voilà une très bonne question, parce que le problème de la beauté, vous parlez d'une belle musique liturgique, le problème de la beauté, c'est qu'il y a un élément, il y a une partie objective et une partie subjective. On pourrait, et en particulier dans notre société un peu contemporaine, se dire, bah, voilà, les goûts et les couleurs, c'est ce qui est, enfin voilà, tout le monde a des sensibilités différentes, des goûts différents, etc. Et puis moi, je vais préférer bien des chants vraiment du grégorien, d'autres, des chants en polyphonie avec une belle chorale, d'autres avec une guitare et des jeunes qui jouent, etc. Et ça tape dans les mains, et pour moi, je vais trouver ça beau, etc. Et on pourrait cliver un petit peu les choses. En réalité, et je crois que c'est aussi un des buts de notre stage de musique liturgique, c'est aussi se rappeler ce que dit d'ailleurs le Concile Vatican II et que rappelle le pape François dans le texte que vous venez de citer. Il est dit « Aux musiciens et chanteurs, on donnera aussi une authentique formation liturgique et musicale. » C'est-à-dire que la musique répond aussi à des lois.
Vous voulez dire que dans le fond, peu importe la sensibilité, le tout est d'être bon, j'ai envie de dire.
Il y a une exigence. En fait, la musique répond à une grammaire. C'est un peu comme l'orthographe, comme quand on écrit. Il y a des règles. Il y a des règles d'écriture musicale. Il y a des règles. Il y a des fautes musicales. Il y a des fautes harmoniques. Comme on fait des fautes de grammaire. Comme on fait des fautes de conjugaison. Et la musique répond aussi à ces exigences-là. Et dans la liturgie, eh bien. On est appelé à vivre une forme d'exigence aussi dans l'écriture, dans la composition musicale. Et cela participe à la beauté finalement de la musique et du chant.
Il faut dire donc que ce stage est ouvert à tous, hein, on y reviendra, et que ça concerne, on va dire, la participation ou l'accompagnement de la célébration eucharistique, mais pas que, des groupes de prière, bref, tout un peu la vie chrétienne. Alors, il y a un autre document de fait que je voulais vous inciter à commenter. C'est à l'occasion donc des 50 ans de Musica Sacram. Le pape François donc a pris la parole à Rome et a parlé à nouveau musique et liturgie. Il a dit entre autres, il s'agit donc avant tout de participer intensément au mystère de Dieu, à la théophanie qui s'accomplit dans toute célébration eucharistique. Et puis un peu plus loin, il disait, pour reprendre un petit peu votre interrogation précédente, en fait, il y a toujours comme une tension, si j'ai bien compris, entre d'un côté sauvegarder et valoriser le patrimoine riche et multiforme hérité du passé, dit le pape François, et en même temps faire que la liturgie soit pleinement inculturée. Est-ce là une tension un peu irréconciliable ?
Je pense que c'est une tension dans laquelle il faut savoir être inventif. Ce qui est très frappant, c'est que on a dans l'évolution un petit peu la réforme liturgique, on a dans l'idée que le grégorien c'est une chose du passé. Or, la constitution de Vatican II sur la Sainte Liturgie rappelle par exemple que le chant grégorien est le chant propre de la liturgie romaine, c'est lui qui dans les actions liturgiques, toutes choses égales ailleurs, doit occuper la première place. Et juste après on ajoute, les autres genres de musique sacrée, surtout la polyphonie, ne sont nullement exclus de la célébration pourvu qu'ils s'accordent avec l'esprit de l'action liturgique. Autrement dit, eh bien voilà, on est appelé un petit peu à puiser dans ce patrimoine-là, dans ce patrimoine musical qui est à la fois le signe de notre histoire et qui dit si le chant grégorien par exemple a été le chant de l'Église pendant tant de siècles, c'est qu'il a toujours aujourd'hui quelque chose à nous dire sur justement ce lien à Dieu, cette prière. Mais il doit être aussi au service de la prière du peuple de Dieu, le porter et lui permettre de rentrer dans l'action liturgique. Et donc derrière, il y a la possibilité, avec justement le développement moderne aussi de la musique, de trouver des genres musicaux, des compositions qui vont pouvoir, tout en gardant, en sauvegardant le caractère sacré, accompagnant, en servant le caractère sacré de l'action liturgique, pouvoir aussi donner cours à la création plus moderne, moyennant ce que je disais sur les exigences de la composition musicale que j'ai rappelé tout à l'heure.
Allez, on va faire une première pause musicale et puis on va plonger un peu dans le cœur du stage qui s'organise autour de trois pôles. On verra chanter, célébrer et jouer. Je citerai juste à nouveau le pape François, toujours dans cette intervention à l'occasion donc des 50 ans de ce texte Musica Sacram, qui disait la chose suivante à Rome. « La musique sacrée et le chant liturgique ont le devoir de nous transmettre le sens de la gloire de Dieu, de sa beauté, de sa sainteté qui nous enveloppe comme un nuage lumineux. »
Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Coup de zoom sur le stage musique et liturgie, non pas session. C'est donc pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Avec nous Anne-Marie Pouillon, qui est déléguée provinciale au service de la musique liturgique, Gaël Rocoul, qui est prêtre du diocèse d'Albi, Audrey Carpin, choriste, et Monique Ducomte, chantre et chef de chœur. On va donc plonger un petit peu dans le détail de l'aventure de ce stage pour donner envie d'y aller. Vous allez nous expliquer qu'il n'y a pas aussi de prérequis. C'est ouvert à tout le monde et pas forcément aux grands spécialistes de la liturgie ou à ceux qui ont déjà un gros bagage. Revenez un petit peu, Anne-Marie Pouillon, sur la jeunesse. Vous en avez parlé tout à l'heure, vous dites que ça fait 57 ans que ça existe. Au début, ça concernait donc seulement la province de Toulouse, et puis maintenant c'est élargi à la province de Montpellier, donc on peut dire que c'est l'Occitanie, hein, oui. qui est conviée. Et c'est donc né autour de l'abbaye d'Ancalcar, dans le Tarn. Racontez-nous la genèse.
Les moines se sont rendus compte de l'importance, vous avez parlé de Vatican II, et ils se sont rendus compte de l'importance de porter la musique, et que de l'importance de la musique et de la nécessité de faire passer des choses. Et très vite, après, les responsables de musique liturgique de la province de Toulouse ont pris en charge. Et le premier qui a vraiment fondé assis le stage, c'était le père Fourousse, qui était responsable de musique liturgique de Pamiers.
Donc on s'est dit, en fait, après le Concile Vatican II, aidé par ces moines, c'était bien beau en fait que la liturgie soit en français, mais il allait falloir se prendre en main, en gros,
Il fallait se prendre en main et puis l'ouvrir pas que à des religieux, justement, pour éviter. Et très vite après, un prêtre des Landes, le père Ameslan, qui était, je peux le citer, mon père spirituel. Et dès les années 67-70, on va dire, se sont mis au travail pour que la musique... Mais le stage, même s'il était sur la province, a toujours été ouverte à tout le monde, puisqu'on a des gens de la France entière, voire du monde entier qui viennent, puisqu'on a des fois des gens qui arrivent du Japon, du Liban, du Cameroun, même des États-Unis.
Ça, c'est pour la jeunesse. Il faut rappeler aussi que j'ai lu ça en préparant l'émission. En fait, c'est seulement en 1967 que la conférence épiscopale française avait autorisé la langue parlée pour le canon de la messe. Voilà, aujourd'hui, on se pince quand on lit ça, mais voilà, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il y a trois piliers. Donc, chanter, célébrer, jouer. Les auditeurs imaginent ce qu'il y a derrière, mais on va peut-être leur donner un peu plus de détails pour leur donner envie de venir. Pour chacun, vous nous avez choisi un extrait musical, histoire de nous mettre l'eau à la bouche. On va commencer par le premier que vous avez choisi pour chanter. Dites-moi, il y a des milliers de personnes à votre stage, là. On a l'impression qu'on est dans un stade, c'est Anne-Marie Pouillon.
C'est pas un stade, ce n'est que la basilique du Rosaire à Lourdes.
Quel est l'extrait que vous avez choisi et pourquoi vous l'avez choisi ?
Alors, je l'avais choisi par rapport plutôt au lien de célébrer, puisque c'est un
passage. Ah mince,
un passage. C'est pas grave.
On s'est emmêlé les pinceaux, alors.
Voilà, bon, j'en suis capable, tout à fait. Mais pas pendant la liturgie. L'extrait de la dernière messe qu'a composé un des compositeur qui avait été mis très en vogue dans les années 60, justement, Joachim Simas, et qui, lui, au fur et à mesure des années, a tenté d'évoluer, de suivre ce que demandait l'Église par rapport à la liturgie. Et il s'agit de la messe « Ma force et ma joie ».
Alors, ça va être vous qui êtes à la manœuvre, Gaël Rocoul, parce que mon petit doigt m'a dit que vous animez un atelier à l'occasion de cette session qui, justement, concerne la célébration. Alors, qu'est-ce que vous allez essayer de transmettre ? Qu'est-ce qu'on essaye de donner sur ce pôle célébré à l'occasion de ce stage ?
Voilà, donc dans le pôle célébré du stage, il y a, on va dire, trois sous-catégories. Il y a la question de l'animation d'assemblée, le fait de prier avec les psaumes, notamment dans la liturgie des heures ou des propositions de mise en œuvre de chants de psaumes, et puis un atelier aussi pour célébrer avec les jeunes. Alors moi, je suis plutôt, effectivement, j'accompagne plutôt la question de l'animation de l'assemblée, où on va donner à des personnes, soit totalement novices qui veulent se lancer ou qui ont déjà de l'expérience, expérience dans l'animation de l'Assemblée, c'est-à-dire en fait c'est la personne qui, au micro, invite l'Assemblée à entrer dans le champ, éventuellement aussi par un geste de battue pour aider à tenir un rythme et à avancer dans le champ. Et justement, il y a un petit peu deux parties dans cet atelier. Une partie pour se dire, mais attendez, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de chanter, mais le rôle de l'animateur d'Assemblée n'est pas forcément seulement de battre la crème, comme on dirait, mais c'est aussi s'interroger. Quel chant je vais choisir, si c'est à moi de le choisir, ou en tout cas en faisant partie d'une équipe plus large? Quel chant on choisit, à quel moment de la célébration? Pourquoi? Dans quel sens? Quelle est la fête du dimanche? Par exemple, dimanche prochain, nous allons célébrer la fête du corps et du sang du Seigneur. On va prendre un chant qui va nous inviter à nous retrouver autour de la table de l'Eucharistie, qui en Église, l'Eucharistie nous constitue corps du Christ. Voilà. Donc, on va s'interroger un petit peu, on va lire les textes de la liturgie de la parole pour se dire, quel chant dont la musique vient être au service du texte du chant va pouvoir convenir pour telle ou telle partie de la célébration.
Vous aviez l'air de dire aussi que en fait souvent pendant la messe on regarde le prêtre mais on regarde aussi le chantre. Donc non seulement il faut bien choisir les chants, mais prendre conscience que dans le fond on incarne une partie de la liturgie, c'est ça ou...
Absolument. Et d'ailleurs, c'est un petit peu effectivement la deuxième partie de l'Assemblée, c'est du coup ensuite dire, dans la mise en œuvre de ce chant, de l'animation du chant, ma posture comme animateur d'Assemblée va aider l'Assemblée justement à entrer dans le rite. Par exemple, quand on chante un chant qui accompagne un rite, il vaut mieux s'effacer devant le rite. Par exemple, le chant de la fraction du pain, de l'agneau de Dieu, pendant que le prêtre rompt l'hostie qui sera partagée à la communion. L'animateur n'a pas forcément à se mettre un petit peu en retrait devant le rite qui est en train de se dérouler. Voilà, donc c'est des interrogations comme cela que l'on donne aux stagiaires de pouvoir se poser pour se positionner, on va dire, du mieux possible. Après, il y a les contraintes techniques de chaque église, où ce n'est pas forcément toujours possible de tourner un pupitre, un micro, je ne sais pas quoi. Mais voilà, de pouvoir se donner des clés, s'interroger en fait sur le ministère qu'on est en train d'accomplir à ce moment-là. Et puis, il y a des aspects plus techniques, de battre la mesure, d'aider l'Assemblée à respirer, etc. Mais ça, c'est des choses plus techniques.
Animation d'Assemblée, prie avec les psaumes, célébrer et donc apprendre en fait à vivre la liturgie. Vous vouliez intervenir, Audrey Carpin?
Oui, parce que je rebondis sur ce que disait Père Gaël. C'est vraiment un point qui m'avait marqué parce que souvent en paroisse, on fait des choses par mimétisme parce qu'on a vu que l'ancien chef de chœur ou les anciens choristes faisaient de telle façon. Donc on reproduit sans vraiment savoir le fond du geste, le fond, pourquoi on le fait exactement. Et effectivement, dans cet atelier, on a vraiment vu étape par étape toutes les parties de la messe.
Donc c'est comme une initiation à la liturgie eucharistique.
C'est ça, exactement. On a vraiment pu et savoir... comment chanter, pourquoi ce chant il doit être rapide à ce moment, pourquoi il doit être plutôt chaleureux, pourquoi il doit être plutôt doux à ce moment-ci, pourquoi on doit plutôt se mettre en retrait, plutôt dans le recueillement. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on avait pu étudier, savoir chaque étape de la messe. À ce moment-là, on chante. Pourquoi on chante ce chant-là comme ça? Pourquoi on doit se positionner comme ça? Et ça a vraiment aidé, en fait. Ça a vraiment aidé.
Allez, deuxième pôle. Donc, célébrer, donc dans le désordre un petit peu, chanter. Et donc, il y aura jouer, chanter, c'est donc les techniques vocales, direction de chœur et autres. On va écouter un extrait et puis Anne-Marie Pouillon, vous serez à la manœuvre. Alors, quel est cet extrait que vous avez choisi? Pourquoi vous l'avez choisi, Anne-Marie Pouillon?
Je l'ai choisi pour son côté festif, pour son côté gai, donc qui tranchait aussi un peu par rapport au premier morceau que j'avais pris. Parce que dans ce chant, quand on entend ça, on est là pour le Seigneur, que ce soit pour entrer en célébration ou éventuellement en sortir. C'est un texte qui a mis en musique le père André Guievic, qui très longtemps, pendant 10 ans, a travaillé sur le centre d'art musical de Sainte-Anne-d'Auray, et qui gentiment nous a permis de divulguer ce morceau.
Alors le pôle chanté, donc, qu'est-ce qu'on y apprend en fait ? On peut venir sans savoir presque chanter
on
au
peut
stage
Voilà, on peut venir si on a juste... si on est, je vais dire, simple paroissien, mais il n'y a pas de simple paroissien, puisque comme l'a dit le Père Gaël, quand on, on vient à la messe, on est tous en célébration, on participe tous à cette célébration. On peut venir si on a envie simplement de chanter, si on est directeur de chorale, de chœur, oui, de chorale ou de petit chœur. Et on y propose un travail essentiellement de technique vocale.
Alors, c'est-à-dire, groupe, on apprend quoi ? À lire la musique ou...
Non, alors à lire la musique, ça, tout le monde essaie de l'apprendre un petit peu, parce qu'en fait, on a, au départ, souvent, dans nos paroisses, les gens sont pleins de bonne volonté, ils veulent faire du beau, mais après, on leur donne les moyens. Ils comprennent, comme a fait Audrey, qu'il faut aller vers autre chose, et puis après, le besoin de se former se met en place tout seul.
Donc, on n'apprend pas à lire la musique, pour répondre à ma question,
Pas sur cet atelier-là.
D'accord.
Là, normalement, les gens, s'ils sont chefs de chœur, ont déjà un petit peu de bagage. S'ils ne sont que chanteurs, ça dépend.
Alors, qu'est-ce qu'on y apprend ? On apprend quoi ? À poser sa voix ?
À poser sa voix, à la placer, à chanter, à savoir écouter aussi ce que fait l'autre, à contrôler son souffle, essentiellement. Et à chanter réellement en fonction de sa tessiture, de sa hauteur de voix, et non pas de forcer d'un côté ou de l'autre. Et puis il y a aussi un petit travail qui est fait plus spécifiquement pour les chefs de chœur sur un travail sur partition, comment travailler sa partition, comment permettre à l'assemblée ou au chœur d'intervenir et d'apprendre plus facilement un chant, quel qu'il soit.
Vous me disiez même, il y a dans cet atelier, mise en forme de chant, ça veut dire quoi ? La mise en forme de chant, c'est-à-dire qu'on apprend quoi à composer ou à...
Non, pas à composer, à travailler sur le papier qui est déjà écrit et à décomposer pour pouvoir la mettre en forme, mettre, alterner les voix. D'ailleurs, l'extrait, juste après, il y avait des voix de solistes, c'était un peu pour ça que j'avais pris. Alterner les voix d'hommes, les voix d'assemblée, les voix de femmes, en fonction aussi du matériel humain, entre guillemets, dont on dispose.
Voilà, tous acteurs et célébrants, vous m'aviez dit, c'était une expression qui revenait quand on avait préparé l'émission. On va écouter un troisième extrait pour continuer à avancer un petit peu dans et découvrir ce stage. Alors ça, c'est pour le pôle jouer. Donc, je vais vous poser une question piège. Il y avait quoi comme instrument, là, Marie Pouillon ?
Attendez que je réfléchisse. Donc, il y avait des flûtes à bec, des guitares. Il devait y avoir des flûtes traversières au bout d'un moment aussi qui rentrent, puisque là, c'est un chant traditionnel des veillées de Thésée. Donc, c'est aussi pour montrer un autre aspect des célébrations, qui n'est pas que la liturgie dominicale, mais ces temps de prière aussi qui sont animés... soit avec des aumôneries de jeunes, soit avec des temps de prière bien définis dans les paroisses.
Donc le pôle jouer, en tout cas, c'est quoi ? On arrive avec ses instruments et puis on se perfectionne, chacun travaille sur son pupitre.
Voilà, exactement, chacun arrive avec son instrument, qu'il soit organiste, simple claviériste, c'est-à-dire qu'il ne joue qu'avec les mains et il ne joue pas avec les pieds. guitariste essentiellement, flûtiste, sitariste. Et donc flûte à bec ou traversière, quand j'ai dit flûtiste. Et donc chacun peut se perfectionner dans ce domaine-là. Ensuite, et apprendre à accompagner, être au service de la liturgie, pas jouer que pour lui. Puisque ça, tout le monde est capable de le faire en dehors d'une liturgie. Et après, il y a la possibilité de participer, même si on est inscrit sur un autre atelier, à un temps d'orchestre. Donc, qui va venir avec son saxophone, sa clarinette, son violoncelle, son violon, rajouter un petit peu de la richesse instrumentale. Et puis, ça nous permet de montrer comment, au cours d'un morceau, on peut exploiter tel ou tel instrument, le mettre en avant, et pas forcément tout mettre d'un coup, surtout les percussions qu'on apprend à utiliser pour les plus jeunes sur des chants.
Audrey Carpin, vous vouliez intervenir.
Oui, alors le chant qu'on a écouté là à l'instant, il m'a fait sourire parce que on se rend pas compte, mais sur le stage, il y a vraiment beaucoup de personnes. Et ça montre quand même qu'on arrive à avoir une cohésion où c'est beau à la fin. Et ça montre tout le travail qu'on peut faire sur tout le stage pour pouvoir mettre tout ça en accord, tout le travail qui est fourni dans chaque pôle pour avoir quelque chose de joli. Et en plus, le pôle joué, moi, j'étais pas dans le pôle joué parce que je ne joue pas dans l'instrument. Mais ce qui m'avait marqué, c'est qu'il y avait des très, très jeunes. Et ils travaillaient pour pouvoir fournir un travail, enfin quelque chose de très joli à la fin. Et quand on était à Lourdes, je ne sais plus c'était dans quel... c'était à la basilique du Rosaire. On voyait les tout-petits qui jouaient, mais qui faisaient quelque chose de bien parce qu'ils avaient travaillé pendant le stage, ils avaient vraiment appris quelque chose.
Allez, on va faire une deuxième pause. Et puis justement, Audrey Carpin et Monique Ducourt, vous allez nous raconter un peu votre expérience à l'occasion de ce stage. Vous nous direz que ce n'est pas seulement un stage, si j'ai bien compris, mais c'est vraiment une expérience d'église.
Présence à Cahors, 92.5.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Coup de zoom sur le stage musique et liturgie, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, ce stage qui doit se tenir donc du 19 au 25 juillet prochain, qui concerne donc toute l'Occitanie, province de Toulouse et province de Montpellier. Et vous me disiez à la pause Anne-Marie Pouillon, qui est un peu une spécificité du Sud-Ouest. Autour du plateau, pour ceux qui nous rejoindraient, Anne-Marie Pouillon, qui est déléguée provinciale au service de la musique liturgique, Gaël Rocoul, qui est prêtre du diocèse d'Albi, Audrey Carpin et Monique Ducomte, qui sont nos deux témoins du jour. Alors on va commencer avec vous, Monique Ducomte. Bonjour. C'est vrai que oui, on vous récupère en cours de route. Donc vous-même, vous faites du chant. Aujourd'hui, vous jouez d'un instrument, en l'occurrence du piano et même maintenant de l'orgue. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui vous étiez entre guillemets avant le stage? Quoi, une paroissienne, on va dire classique, qui essayait de chanter comme elle pouvait, c'est ça?
Exactement. Je participais à la messe comme beaucoup de chrétiens. Et puis un beau jour, on m'a dit, ben finalement, peut-être tu pourrais nous aider à chanter. Je leur ai dit oui, d'accord, mais comme ça, là, je m'en sens pas capable. Et là, c'est là qu'on m'a proposé le stage. Et depuis, ben, j'ai fait du chemin.
Alors vous partiez, entre guillemets, d'un peu loin, hein, c'est vous-même qui me l'aviez dit, parce que vous lisiez à peine la musique, c'est ça? Vous veniez de vous mettre au piano? Quel était un peu votre bagage avant de franchir la porte de votre première expérience de stage?
Alors, mon bagage en chant était assez important, puisque depuis l'âge de 12 ans, j'ai participé à des chorales. Mais par contre, je n'avais aucune expérience de lecture, de déchiffrage d'une partition, ni bien sûr, encore plus, de faire chanter.
Alors, donc, on vous a incité donc à participer à ce stage. Expliquez-nous un peu ce que vous avez vécu et ce que vous y avez trouvé.
Alors, ce que j'y ai vécu, c'est extrêmement fort. Dès le premier stage, j'ai été accueillie de façon extraordinaire par une équipe formidable qui m'a donné confiance, qui m'a dit que finalement, ben oui, j'étais capable. Donc, j'en étais pas persuadée moi-même. Puis j'ai progressé progressivement, voilà.
Qu'est-ce que vous avez appris pendant ce stage? Vous avez appris quoi justement? À lire la musique, à diriger un chœur?
Alors, il y a une partie de lecture, bien sûr, dans tout ce qui est apprentissage du solfège, du rythme, qui était ma grande difficulté. Ensuite, le premier stage, j'ai appris à diriger une assemblée, ce que je ne savais pas faire. J'ai appris aussi, comme disait Anne-Marie tout à l'heure, ou Gaëlle, je ne me souviens plus, qu'une célébration, ce n'est pas du hasard. On va d'un point à un autre, il y a des temps forts, il y a des périodes liturgiques. Ça, je le savais un peu intuitivement, mais là, je l'ai vraiment découvert. Et qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe quand, voilà.
Donc vous avez appris à être chef de chœur, aujourd'hui c'est le cas, donc vous êtes chef de chœur, donc entre-temps vous êtes mis aussi à l'orgue. Pendant les stages, donc il y a des veillées, alors il y a deux veillées qui vous ont marqué. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces deux expériences qui ont été un peu, on va dire, les points d'orgue de votre expérience?
Alors il se trouve qu'une année, malheureusement, le père Amel a été assassiné pendant le stage. Et ce jour-là, nous étions une unité d'église particulièrement frappée et touchée par cet événement. Et Anne-Marie a proposé, lors de la veillée, une veillée de prière dans laquelle on a chanté en boucle Ubi Caritas. Et cette veillée m'a particulièrement marquée. Je m'en souviens comme si j'y étais encore.
Qu'est-ce qui vous a marqué? C'est quoi justement? Parce qu'il y avait une grande unité, c'était la beauté.
L'intensité de prière, l'unité, la beauté bien sûr, mais surtout l'intensité, le faire église qui était extrêmement puissant, extrêmement prégnant, et il y avait une ambiance de prière extraordinaire. Voilà. D'unité dans l'adversité, dans...
Voilà, Monique Ducomte, on vous redonnera la parole. Hein. Vous m'avez dit aussi que ces stages, c'était addictif. C'est le mot que vous avez utilisé.
Oui. C'est que, complètement.
Parce qu'en fait, on y vit quelque chose de très fraternel, c'est ça? C'est vraiment une expérience d'église?
C'est une expérience d'église extraordinaire. C'est un ressourcement. C'est pour moi absolument un besoin. L'an dernier, ça m'a beaucoup manqué.
Puisqu'il faut dire que l'année dernière, à cause de la situation sanitaire, ça a été annulé. Alors Audrey Carpin, vous, racontez-nous un petit peu votre histoire à vous aussi. Si on commence par l'avant, quel était un peu le bagage d'Audrey Carpin au bagage, on va dire, en matière de chant ou instrumental? Et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être de compréhension de ce qui se joue pendant la liturgie.
Alors, ben moi, j'étais, je suis toujours une petite paroissienne, hein, classique. J'ai voulu servir pendant la messe, donc j'ai intégré la chorale de ma paroisse. Et c'est vrai que dans notre chorale, on avait que des gens qui avaient appris au fur et à mesure, mais qui ne s'étaient pas vraiment formés. Et donc, on a tous un petit peu appris comme ça. Et puis, un beau jour, on a vu qu'il y avait le stage de musique liturgique. On s'est dit, ben tiens, pourquoi pas y aller et découvrir ce qui s'y passe. Et donc, c'est comme ça qu'avec une amie de la chorale, on a pu participer au stage de musique liturgique et qu'on a appris pas mal de choses.
Alors, en l'occurrence, qu'est-ce que vous avez appris, vous ? Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement pendant ce stage ?
Alors, moi, j'étais plutôt dans le pôle célébré. Pôle jouer, non, parce que je ne jouais pas d'un instrument. Pôle chanter, non plus, parce que, comme disait Anne-Marie, bon, il faut quand même avoir déjà un certain bagage. Et donc, j'ai appris, comme disait Gaëlle, la posture à avoir, les différents temps liturgiques qu'il peut y avoir dans une célébration. On a également appris la psalmodie, comment chanter les psaumes avec Père Gaël.
C'est-à-dire, on apprend plusieurs mélodies différentes ou...
Pas du tout, à lire déjà. À lire, parce qu'il y a différentes petites ponctuations sur les psaumes qu'on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, comment les interpréter. Et donc, ça, on les a apprises avec Père Gaël. Enfin, en tout cas, moi, dans mon pôle, c'était Père Gaël qui nous apprenait ça. Et puis il y a aussi le solfège qu'on a découvert. Il y a plusieurs niveaux, donc moi j'étais premier niveau en fait, et on a appris le solfège à lire un peu les partitions, à lire les ponctuations d'une partition.
Alors voilà. En 7 jours, puisque c'est 7 jours pleins, on peut apprendre beaucoup de choses, vous c'est
beaucoup,
votre expérience ?
Beaucoup de choses. Ben, je suis sortie de là hyper enrichie. Déjà, je me disais, mais non, pendant la messe, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Il faut pas se positionner comme ça. Ce chant-là, il doit pas être animé comme ça, parce qu'il y a aussi un pôle où on apprend à animer la messe, ou des moments où on sait qu'il faut se mettre en retrait. Il faut pas forcément avoir des gestes trop, comment dire...
Emphatiques, c'est...
Voilà. Et ça, on ne sait pas forcément. Des fois, on peut animer une messe tout le temps avec le même geste, tout le temps. Et là, on apprend qu'en fait, non. Il y a des moments où il faut être très enjoué, des moments où il faut être un petit peu plus en retrait. Et là, je me disais, quand je suis retournée dans la paroisse, je me suis dit, mais en fait, on ne fait pas vraiment les choses très, très bien. À ce moment-là, on ne doit pas trop être comme ça. Ce chant, il ne doit pas être animé aussi rapidement. Il devrait être un peu plus doux. Voilà.
Est-ce que vous diriez, pour faire écho aussi à votre première intervention, que dans le fond, ça vous a aidé aussi à comprendre un petit peu plus ce qui se joue de grand et de mystérieux pendant la liturgie ?
Oui, totalement. Oui, totalement. Parce qu'en fait, surtout dans le pôle où on apprend à animer, on avait un petit livret qui m'avait été remis par Cathy. Et il y avait toutes les parties qui sont chantées pendant la messe. Donc il y avait le chant d'entrée, le kyrie, prière universelle, etc. Et c'était très très bien expliqué dedans. Donc là, on comprenait un petit peu plus ce qui se jouait, comme vous dites.
Voilà. Gaëlle Recoule, peut-être le mot de la fin. Ce qu'on entend derrière ces témoignages, c'est qu'en fait, il se joue, ça va sans dire peut-être, hein, pour vous qui êtes familier de tout ça, mais beaucoup de choses à l'intérieur du chant. On entend l'unité, la beauté, la communion, apprendre à parler de quelqu'un qui est en fait le centre de la liturgie quand on voudrait se mettre au centre. C'est quoi ? C'est dans le fond, c'est travailler, c'est vraiment, comment dire, travailler le cœur de la vie chrétienne que travailler la liturgie ?
J'aime beaucoup l'expression que vous avez employée, apprendre à parler de quelqu'un, de ce quelqu'un, évidemment avec un U majuscule. c'est vraiment cet art-là. On parle, par exemple, de l'art de célébrer la messe, pour évoquer justement le rôle et la fonction des différents acteurs de la liturgie. Je crois que c'est ça, c'est-à-dire que c'est un art, c'est aussi un apprentissage. Même un prêtre qui, au sortir du séminaire, comme après 50 ans de sacerdoce, se dit « bon, moi ça va, je sais célébrer la messe, j'ai rien besoin de découvrir et d'apprendre, je sais tout », va être vite en danger, parce que précisément, comme je le disais, la liturgie est au service du peuple de Dieu, du peuple qui célèbre. Et donc, il y a sans cesse à s'ajuster mutuellement, à collaborer, à œuvrer ensemble pour que, eh bien, Dieu soit dit au monde d'aujourd'hui, comme le dit un chant, et en même temps pour que Dieu nous parle à nous qui sommes acteurs de la célébration. Mais au fond, l'acteur essentiel et principal, c'est le Christ. Et c'est lui que nous avons à découvrir, à faire grandir dans nos vies.
Et ben voilà, ce stage est à découvrir, stage de musique liturgique à Toulouse. C'est donc du 19 au 25 juillet prochain. Il reste des places. Un numéro de téléphone et une adresse internet, 06 32 42 54 14, 06 32 42 54 14, ou session31@orange.fr. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous appelez le standard de la radio. On se fera un plaisir de vous y aider. Je finirai cette émission en recitant le pape François, cette belle citation que j'ai trouvée à l'occasion donc toujours de cette adresse aux participants des 50 ans de Musica Sacram. Donc texte qui a marqué le pape François, qui dit: la musique sacrée et le chant liturgique ont le devoir de nous transmettre le sens de la gloire de Dieu, de sa beauté, de sa sainteté qui nous enveloppe comme un nuage lumineux. Un grand merci à vous. À la technique, Christophe Aubry. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.